Ça, c'est du lin. Le lin, j'utilise comme répulsif pour les doryphores. Enfin, je plante des pommes de terre, les variétés anciennes du Queyras, que je tire du conservatoire de Lyon, label du Queyras, qui est arrivé ici avant que Parmentier la diffuse apparemment sur la France. Apparemment, je dis parce qu'il n'y a rien de certain. Mais du coup, pour la protéger, je mets du lin autour.
Et pour ce nouvel épisode de l'écho des communes, un monde au fin, on prend la direction d'un lieu un peu particulier, le jardin historique. Je suis avec Emmanuel Borel, vous êtes le jardinier de ce jardin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quand ce jardin a été créé et pourquoi?
Alors, on a créé ce jardin en 2012 sous l'initiative du maire Gilles Fioretta, quand on a été classé à l'UNESCO. Du
D'accord.
coup, c'est notre projet culturel. On a l'intention de créer un jardin en fait qui retrace l'alimentation de la place forte, donc de Vauban à nos jours. Donc, le but, c'est de retrouver des semences anciennes et
Ouais.
locales. Les développer, les multiplier et après les diffuser pour pas perdre ces espèces.
Parce que justement, est-ce que certaines sont menacées?
La plupart sont menacées, ouais, il y en a beaucoup qui ont disparu déjà. Donc celles qu'on arrive à retrouver dans les conservatoires, on essaye de, ben voilà, de les multiplier pour pas les perdre, celles-ci.
Là, le jardin, donc combien est-ce qu'il fait de mètres carrés, d'hectares?
Alors là, il y a à peu près 1000 mètres carrés
Ok.
entre l'extérieur qui est destiné aux plantes de cueillette et plantes médicinales.
Ok.
Et l'intérieur qui est destiné à tout ce qui était cultivé au champ et au jardin.
Est-ce qu'on peut faire un petit tour ensemble, du coup, peut-être pour nous expliquer les particularités de ce jardin, ce qu'on peut y trouver? Vous disiez, il y a à la fois le côté les plantes médicinales.
Médicinal, il y a tous les fruitiers. Ici, c'est toute une série de pommiers anciens, comme le calvi blanc, le calvi rouge, le pointu de Trescléou, la dent, le risoul. Le risoul qui est vraiment endémique, puisque c'est un pommier qui est vraiment de la vallée. Donc tous ces pommiers sont mis en place pour qu'on puisse récupérer des greffons dessus pour pouvoir,
D'accord.
pareil, pas perdre l'espèce en fait. Il y a toute une série de poiriers, pareil, anciens, de pruniers, de pêchers. Ensuite, pas mal de légumes et de plantes médicinales, plantes de sorcières aussi.
Ils s'en servaient donc pour se soigner les militaires?
Mais, bah, tout à fait, ouais, tout ce qui était médicinal, ils utilisaient toutes les plantes pour se soigner, ouais.
Comment est-ce que du coup vous avez retrouvé ces plantes? Est-ce qu'il y avait des écrits qui étaient conservés pour qu'on sache ce qu'ils utilisaient à cette époque-là?
Oui, on a fait pas mal de recherches, notamment on a fait une étude ethnobotanique l'année dernière sur d'anciens écrits de moines, de bonnes sœurs, d'hôpital militaire aussi,
D'accord.
avec Joseph Charmeil qui était un chirurgien à l'époque ici, enfin après Vauban, sur la place forte. Donc on a pas mal d'écrits, oui, qui retracent des variétés de plantes.
Est-ce que les plantes médicinales, elles avaient une grande importance à l'époque de Vauban? Est-ce qu'on s'en servait vraiment beaucoup pour soigner ou...
On avait un peu que ça pour se soigner,
Ouais.
donc c'était pas un complément, c'était la base.
Est-ce qu'on peut en voir quelques exemples? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être certaines à quoi est-ce qu'elles servaient aussi?
Celle-ci, par exemple, elle est inscrite en numéro 1 du Capitulaire de Willis, un écrit qui avait été édité par Charlemagne, une liste de plantes qu'on devait avoir dans son château, dans son village, pour se soigner.
Elle servait à quoi celle-là?
Celle-ci, c'est la Salvia officinalis, donc la sauge officinale. Celle-ci, on appelle ça une panacée, c'est-à-dire qu'elle soigne un large éventail de maux et de problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de médicaments sont issus de molécules synthétisées qui sont issues de plantes.
Et ça alors, par exemple, comment est-ce qu'ils s'en servaient? Enfin, comment est-ce qu'on les utilisait, les plantes?
La sauge, on l'utilise surtout en infusion.
D'accord.
C'est surtout en infusion, mais c'est une plante alimentaire aussi, hein. On peut la consommer en alimentaire.
Et les autres plantes médicinales en général, comment est-ce qu'ils s'en servaient du coup? Ça dépendait.
Ça dépendait de la plante, de la maladie aussi. Certaines sont utilisées en cutané, d'autres en interne. Certaines sont utilisées en pommade, d'autres en infusion, en décoction, en solarisation. Il y avait vraiment énormément
Ouais.
de principes pour pouvoir extraire ces principes utiles pour la santé.
De quoi est-ce qu'ils se nourrissaient du coup les militaires qui étaient sur cette place forte de Mont-Dauphin?
Bah, à cette époque-là, c'était très dur, hein. C'était une période en plus climatique un peu particulière, puisqu'on finissait sur un petit âge de glace, une succession d'hivers très 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 rigoureux,
D'accord.
des printemps très pluvieux où tout ce qu'on mettait en culture pourrissait, des étés très secs où tout
Ouais.
brûlait, et à l'automne encore beaucoup de pluie qui arrachait les sols. Donc c'est vraiment des périodes très difficiles. C'est une période qui a inspiré notamment Perrault quand il a écrit Le Petit Poucet, ouais, période de famine. Donc ici, les soldats se nourrissaient, c'était pas la place forte qui nourrissait toute la garnison, c'était la
Ouais.
vallée, hein, tout était importé pratiquement de la vallée. notamment les céréales, ce qu'on appelait les bleds à l'époque. Dans les bleds, c'était tout ce qui était panifiable. Bah, le blé, le seigle, surtout ici, c'était surtout le seigle. Le métaï, qui était un mélange de blé, de seigle et d'erce, qui est une petite légumineuse. Ils avaient du chou, de la carotte, du navet, du poireau, mais c'était pas. Il n'y avait pas grand-chose de plus.
Et du coup, sur la place forte, rien n'était cultivé?
Il y avait des petits potagers, si. On a retrouvé des plants de la place forte où on voit des petits potagers. Il y avait des carences, ouais. Il y avait des produits qui arrivaient après du sud, notamment des produits qui étaient un peu plus iodés, mais c'était vraiment très, 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 très rare. Donc, des périodes très, très dures. On disait qu'à l'époque, ici, les gens mangeaient beaucoup de racines et même les écorces des arbres à certaines époques, tellement c'était dur. Ils panifiaient les glands, ou la racine d'asphodèle aussi était séchée et panifiée quand les céréales ne donnaient pas.
Pour en revenir à la période d'aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez pour les années à venir? Comment est-ce que vous envisagez ce jardin? L'idée, c'est vraiment toujours de perpétuer ce qui se faisait avant.
Ah oui, le but du jardin, c'est de conserver toutes ces plantes, surtout les fruitiers et les légumes, pour pouvoir les multiplier, les diffuser au maximum, pour ne pas les perdre, oui, tout à fait. On travaille avec des agriculteurs en bio, forcément. On leur prête des graines, ils les mettent en culture, ils les multiplient et ils nous en rendent le double de ce qu'on leur donne. Donc il n'y a pas de question d'argent. Par contre, on récupère deux fois plus de semences qu'après on peut encore diffuser. On travaille comme une banque de graines. En fait.
Vous travaillez là avec combien d'agriculteurs?
Voilà, on en a 5-6 pour l'instant,
Du
mais
département?
oui, de la vallée même. On essaye de faire le plus local possible. Mais après, si on peut diffuser nos graines sur d'autres départements, voire d'autres régions, c'est déjà un petit peu le cas via certains réseaux, notamment Semences Paysannes ou des choses comme ça. Mais oui, on est au plus sera diffusé, au mieux c'est.
Et est-ce que vous continuez justement les recherches pour savoir à l'époque comment est-ce qu'ils se nourrissaient, quelles plantes, ce genre de choses?
Ah oui, c'est une recherche perpétuelle. Hein. On en apprend tout le temps par les anciens qui nous racontent comment eux ils utilisaient certaines plantes pour manger, puis pour soigner. Donc, on essaie de récolter dans ces études ethnobotaniques qu'on est en train de mener un maximum d'informations avant que ces personnes-là disparaissent et que ce savoir disparaisse avec eux.
Et ce jardin, il se visite aussi, si on a envie d'en savoir un petit peu plus là.
Oui, je fais des visites guidées de mai à juin, un petit peu en septembre aussi, sur réservation, tous les jours, une le matin, une l'après-midi, une le matin à 10h, une l'après-midi à 15h. Et après, c'est sur réservation, sur demande, quoi. Après, je peux m'adapter aussi.
Merci beaucoup.